France Inter. Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Faire par soi-même, relocaliser, gagner en indépendance, loin des réseaux de la mondialisation. Qu'ils soient industriels ou numériques, tels sont les thèmes abordés aujourd'hui. On va commencer par un industriel vertueux en Alsace, et qui s'appelle Pierre Schmitt, qui a, après avoir créé une première entreprise, en a sauvé trois autres, ainsi que 150 emplois. Et puis nous appellerons dans la foulée Patrice, second invité, qui a abandonné un CDI pour se mettre à son compte et promouvoir les logiciels libres afin de sortir enfin de l'emprise des GAFAM.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Pierre Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Pierre, vous êtes un sauveur. Quatre entreprises, je les cite, Filia Textile, Emmanuel Lang, Velcorex, Tissage des Chaumes, une filière importante du textile en Alsace. Vous les avez toutes sauvées de la liquidation ?
Non, en fait, la première filée a été créée après mon départ de chez DMC parce que j'étais en désaccord total avec la stratégie de DMC qui voulait tout délocaliser. Et j'ai repris donc mon indépendance et j'ai recréé la première structure qui s'appelle Filia qui s'est spécialisée dans les tissus soierie. Par contre, les autres, effectivement, on a repris Velcorex qui est le premier producteur de velours en Europe et le seul en France et qui est connu mondialement. On l'a repris en 2010. Dans des circonstances après liquidation extrêmement difficiles, après Emmanuel Lang, qui remonte à 1856, et également Tissa Deschaumes, qui est une entreprise qui remonte à 1908, qu'on a repris en 2013. Voilà à peu près le parcours.
Ouais, Pierre, si je résume quand même, vous donnez du travail à 150 personnes, 150 salariés, un chiffre d'affaires d'au moins 30 millions d'euros annuels. Si ça marche avec vous, pourquoi ça ne marchait pas avant ?
Écoutez, c'est une très bonne question. Je dirais d'abord, il faut y croire. Parce que le problème dans notre industrie, c'est qu'on ne croit plus en grand-chose. On a un patrimoine incroyable de plusieurs siècles d'expérience, de savoir-faire, de filières complètes et qu'on devrait sacrifier sur l'autel de la mondialisation. Mmh. Bon, moi, je pense que c'est de la folie totale et que le textile, ça se réduit pas à des t-shirts. Ça se réduit à des savoir-faire absolument incroyables qui sont extrêmement pointus. Et Schlumberger, qui est notre partenaire de machines textiles, qui a deux siècles d'histoire d'expérience, qui a un savoir-faire unique sur la planète, Velcorex, qui a des savoir-faire uniques en matière de velours, et je pourrais continuer comme ça, et le lin en fait partie. Pourquoi voulez-vous qu'on sacrifie tout ça sur l'autel de la mondialisation ? Oui. On n'est pas conscient des patrimoines et des savoir-faire et de l'image que véhicule la France à travers la planète. J'ai l'impression parfois que les étrangers croient beaucoup plus dans notre filière que les Français.
Oui. Vous avez, à propos de Schlumberger, fait appel à d'anciens ingénieurs et techniciens de Schlumberger pour remettre en marche des machines que vous avez été chercher en Hongrie, des machines à filer le lin. Faut-il le rappeler ? La France est le premier producteur au monde de lin, sauf qu'on n'a pas d'outils de transformation.
Non, parce qu'on a fermé toutes les filatures dans les années 2000 et qu'on a coupé, évidemment, la première étape de valorisation. Je pense que c'était une action suicidaire. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les 150 000 tonnes de lin, dans une dizaine d'années, vous aurez une dizaine de filatures en lin. Il y a déjà quelques projets qui sont en cours en Normandie et dans le nord de la France. Donc c'est une industrie qui est en train de renaître de ses cendres grâce à l'innovation. Parce que faut jamais oublier qu'une bobine de lin qui sortait d'une filature dans les années 2000 ressemble comme une goutte d'eau à une bobine de lin qui est produite aujourd'hui en Chine ou en Pologne. On a fait juste un copier-coller de ce qu'on savait faire dans les années 2000 en France. Donc l'innovation, qui est pour nous évidemment un vecteur de développement très important, peut se faire que dans la proximité des équipes, des machines, des ateliers. Et c'est ça qu'on est en train de recréer à Mulhouse.
Et donc, à partir de cela, filé chez vous, il y a une gamme de vêtements que l'on peut trouver sur le site matièrefrançaise.fr, ça s'écrit au pluriel, hein, matière au pluriel, française au pluriel. Et là, vous ouvrez donc un nouveau marché, du lin de Normandie, très exactement du Pays de Caux, qui est quand même le centre névralgique du lin, filé en Alsace et vendu à partir des matières premières.
filé en Alsace, tissé dans la même usine, et on oblige chez Velcorex, dans un rayon de 30 km autour de Mulhouse. Et c'est grâce à ça qu'on est en train de finaliser un jean en 100% lin qui aura consommé, d'après un cabinet spécialisé dont on vient de recevoir l'étude, qui aura consommé 85 litres d'eau au lieu de 8500 litres d'eau pour un jean en coton.
Exact.
Tout ça grâce au lin, parce que le lin, ben, entre la Normandie et l'Alsace, il y a 700 km. Donc tout ça se fait dans la proximité et surtout un lin qui ne pollue pas. Que vous connaissez le degré de pollution du coton. Donc c'est une filière, je dirais, de bon sens, écologique et qui a un potentiel absolument incroyable.
Alors le site névralgique à Hirsin, c'est Emmanuel Lang, emmanuel-lang.fr. Et donc je rappelle, tous les vêtements produits à partir de ce lin, filet et tissé en Alsace, matièrefrançaise.fr. Merci beaucoup Pierre.
Merci à vous pour votre intérêt sur le lin et j'espère que la plupart des Français vont prendre conscience de cette filière qui est en train de se réimplanter en France.
France Inter, carnet de campagne.
Nous parlons régulièrement des logiciels libres, des propositions open source, loin du réseau des GAFAM, et pourtant on a l'impression qu'on peine encore à développer ces nouvelles pratiques. Alors on appelle tout de suite Patrice Andréani. Patrice, bonjour.
Bonjour à vous.
Patrice, vous avez abandonné il y a 5 ans un CDI pour vous retrouver auto-entrepreneur.
Oui. J'ai quitté un emploi qui était un peu vide de sens pour moi. J'avais envie de faire quelque chose de plus utile et avec plus de sens, dans une démarche plus responsable.
Et votre métier précédent, sans vous demander le détail, avait quelque chose à voir avec la toile numérique ?
Rien du tout.
Ah. Mais depuis 15 ans, vous êtes intéressé par les logiciels libres et vous avez inventé Numericatus, une plateforme dédiée aux logiciels libres. On peut s'informer, on peut débuter dans le numérique avec des outils libres et éthiques que vous proposez et aussi des tutoriels, parce que c'est bien aussi d'avancer un tout petit peu plus en avant dans la démarche de l'autonomie numérique. Ça, c'est pour essayer de faire comprendre l'intérêt, pourtant on en parle depuis un moment, des logiciels libres.
Voilà, oui, la démarche vise à essayer de faire connaître les alternatives aux GAFAM, parce que tout le monde, dès qu'on parle de numérique, pense aux GAFAM, mais il existe d'autres outils, d'autres solutions qui sont beaucoup plus éthiques, beaucoup plus respectueuses de nos données personnelles, de la souveraineté numérique aussi des États, ce qui revient de plus en plus souvent. Donc c'est vraiment important de faire connaître ces alternatives et puis d'aider nos concitoyens à prendre en main ces outils, donc pas simplement découvrir les alternatives, mais en même temps débuter dessus. Donc c'est pour ça que j'ai créé Numericatus, une plateforme en ligne avec de nombreuses ressources, des tutoriels, des vidéos, du gratuit et du payant pour pouvoir être accessible à tous, pour que les gens puissent débuter et s'initier au numérique avec des outils qui respectent leurs données personnelles.
Ouais. Je rappelle les GAFAM, c'est l'acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On pourrait en ajouter d'autres. Et vous dites, on se tire une balle dans le pied de notre économie numérique.
Oui, parce que malheureusement, on continue encore d'utiliser majoritairement les GAFAM, même si le gouvernement parle de plus en plus de souveraineté numérique. Il n'y a pas très longtemps, on a vu que la BPI, la Banque publique d'investissement, encourageait nos TPE à aller chez Amazon pour se mettre au numérique, par exemple, alors qu'on a des entreprises françaises qui pourraient faire ça très bien. On le voit aussi avec les problèmes de l'école à distance. C'est des sociétés américaines qui sont choisies, alors qu'on a des sociétés en France. Je pense par exemple à Titreo, qui développe un outil de classe virtuelle basé sur un logiciel libre. Donc on a des solutions en France portées par des acteurs locaux français, éthiques, et malheureusement, on continue encore d'utiliser majoritairement les GAFAM. Donc évidemment, eux ne participent pas à notre économie. Donc on se tire vraiment une balle dans le pied en continuant à privilégier ces outils. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir des outils libres et des acteurs locaux, français, et avec une éthique derrière, et qui participent à notre économie et à nos emplois. C'est un cercle vertueux, en fait, qu'il faudrait essayer d'entamer.
Mais comment vous expliquez cet attachement aux GAFAM et cette crainte ou ce manque de confiance à l'égard de logiciels libres en France ?
D'une part, on ne parle pas assez d'eux. Il y a le problème de la vente. Quand on va dans un magasin, on trouve partout du Microsoft, alors qu'on devrait aussi pouvoir trouver du Linux ou d'autres. Donc il y a déjà un gros manque à ce niveau-là en matière de communication. Et puis nos dirigeants sont depuis longtemps engagés dans une démarche avec les GAFAM, et donc ils renouvellent simplement sans chercher à voir les autres possibilités qui existent. Donc il faudra un peu casser ce modèle pour pouvoir engager une autre voie dans le numérique,
ouais,
plus respectueuse.
Alors il y a quand même une division entre les GAFAM et les grands outils mondialisés, outils numériques, qui relèvent d'une économie mondiale, et face à ça, des logiciels libres, des outils de proximité, qui, eux, relèvent d'une forme de solidarité. Exemple, tout ce qui est proposé en open source sur la toile aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment une collaboration, tout ce qui est le domaine du logiciel libre. C'est des milliers de contributeurs qui participent bénévolement pour créer des outils. Donc, évidemment, il n'y a pas la puissance d'attaque qu'ont les GAFAM avec les milliards qu'ils possèdent. Donc, évidemment, c'est très difficile d'arriver à lutter contre ça. Donc, il faut arriver à les contourner, il faut arriver à s'unir et à créer un cercle vertueux d'utilisation et de contribution. Puisque c'est très bien d'utiliser du logiciel libre, mais il faut aussi pouvoir contribuer pour pouvoir pérenniser et développer ces outils.
Voilà, pour bien débuter dans le numérique avec les bons outils, numericatous.fr pour l'adresse. Merci Patrice.
C'est moi qui vous remercie.
Midi 45 sur France Inter, après les GAFAM, voici le gars homme. Je suis facile. C'est nul, je sors. Ok, d'accord. Bonjour Nicolas Stoufflet.
Bonjour Philippe Bertrand, vous commencez magnifiquement la semaine. Je pensais à vous justement hier soir,
ouais,
en regardant sur France 2 le film The First Man. Vous aussi, vous êtes un pionnier. Vous aussi, vous avez
vous
fait
faites du mal, c'est pas bien.
Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité.
C'est ça.
Merci Philippe.
Merci Nicolas.